Voilà. Alors, pour commencer, je voudrais revenir brièvement sur ce que j'ai dit la dernière fois. J'étais un peu rapide. J'en ai conscience, je vous demande pardon. Et donc, je voudrais retracer quelques éléments, surtout la deuxième partie de ce que j'ai dit, pour vous situer. C'est normal que c'était compliqué la dernière fois, parce que j'ai essayé de donner des principes de la réflexion. Donc, quand on voit la matière, c'est une chose. Quand on a des principes qui font la matière de la réflexion et qui l'articulent, c'est toujours plus compliqué. Alors, cette matière, elle se fonde sur l'articulation de l'histoire. Comme vous le savez, dans l'Ancien Testament, eh bien, le Messie a été annoncé. Il y a eu des promesses qui ont été faites. En Jésus, qui intervient il y a 2000 ans, ces promesses sont accomplies. Elles sont vraiment réalisées. Mais en se réalisant avec Jésus, on se rend compte que les promesses disaient plus que ce qu'on pouvait imaginer sur Jésus. Elles parlent aussi de nous. Et donc, ce qui s'est réalisé en Jésus se réalise en nous aussi. Et ça de deux manières, on pourrait dire. Donc, ce qui se passe en Jésus est intériorisé. Et étant intériorisé, eh bien, c'est à nous. Et c'est d'abord spirituel. Et donc, si vous voulez, on va dire que ceci, ce sont dans la Bible les évangiles qui parlent de la vie de Jésus, qui montrent comment il l'accomplit. Les épîtres qui viennent après, il ne faut pas forcer le trait, il faut mettre beaucoup d'exceptions, mais on peut dire cela, c'est elles parlent davantage de la manière dont cela nous est appliqué. Vous voyez ? Et bien, à la fin de la Bible, on parle de l'Apocalypse qui continue à dire la manière de s'appliquer jusqu'au tout dernier chapitre et qui parle de manière imagée déjà de la fin. Alors, l'intériorisation, elle est relatée dans la Bible, mais en fait, à partir de ce moment-là, c'est toute l'histoire de l'Église qui commence jusqu'à la fin. Vous comprenez? Alors, vous voyez qu'il y a quatre moments. Le premier des promesses dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'on appelle, alors il faudrait que je précise, là c'est, mais on va dire, c'est la lettre ou le sens littéral. On parle de la ville de Jérusalem. C'est la vraie ville de Jérusalem que nous connaissons aujourd'hui, mais bon, ils en parlent à leur époque. Cette ville de Jérusalem, elle dit autre chose, c'est le Christ. Alors quand on parle du Christ, il faut bien comprendre deux choses. C'est le Christ total, tête plus corps. Et donc quand il s'agira de la ville de Jérusalem, appliquée au Christ total, c'est l'Église. Alors, le fait que le sens littéral signifiait autre chose, on appelle ça l'allégorie. Nous venons, nous, après le Christ, l'Église est déjà constituée, et ce mystère, par le moyen du Christ total, nous l'intériorisons. Cette intériorisation s'appelle la tropologie. Et enfin, le mystère qui était annoncé, réalisé en Jésus, puis réalisé en nous, nous conduit à la fin des temps et nous dit ce qui sera ultimement. C'est ce qu'on appelle l'anagogie. Vous voyez, il y a un déploiement. Et donc, un passage de l'Ancien Testament peut être lu de quatre manières. Il y a quatre sens, qu'on appelle les sens littéral, allégorique, tropologique et anagogique. Alors, sur la feuille de route de cette séance-ci, j'ai mis la citation que je pense avoir mise sur la première feuille, et que j'ai lu, qui est dans Verbum Domini. On voit bien que Benoît XVI la reprend, cet adage, je vous l'ai donné en latin, et en français. Alors pourquoi est-ce que j'ai voulu dire cela? Parce que quand on entend les promesses de l'Ancien Testament, j'ai parlé l'autre jour d'Isaïe, tes morts revivront. Comment est-ce que je comprends cette phrase-là? Isaïe, au sens littéral, qui ne pensent pas directement à la résurrection, plutôt au fait au peuple comme ensemble qui va revivre après l'exil. Au sens allégorique, ça me parle de Jésus. Au sens anthropologique, ça me parle de la résurrection spirituelle qui est la mienne quand je reçois le baptême et que je vis dans la charité. Et au sens analogique, eh bien, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. La question est de savoir toujours qu'est-ce qui me permet de pouvoir aller là, puisque évidemment ça c'est ce que nous ne connaissons pas encore. Et donc la lecture de l'histoire de la foi chrétienne telle qu'elle se présente, c'est toujours de refaire le chemin qui va de la promesse en Jésus et de relire ce qui suit Jésus en fonction de Jésus qui accomplit la promesse. Et donc nous pouvons commencer à penser, parce que l'articulation entre la promesse, Jésus et ce qui se passe maintenant, bien nous permet de prolonger et d'aller plus loin. Et donc je peux, grâce à l'événement Jésus, parce qu'il est ressuscité, donner un sens à certaines paroles que peut-être au départ je n'aurais pas osé donner. Et du coup, ça cadre, ça donne une structure à la réflexion. Ça me permet, ça reste quand même difficile à faire, parce qu'il faut voir chaque passage. Et puis il y a toute la réflexion après de l'Église, des pères de l'Église, et puis de ceux qui les suivront, qui nous y aident. Mais il s'agira à chaque fois d'apprendre à discerner en quel sens ceci doit être compris, en sens, ou dans un sens métaphorique, ou dans un sens littéral. Vous voyez, tout à l'heure, plus tard, dans quelques séances, je parlerai de Paul qui parle de la trompette qui sonne. Il va y avoir une véritable trompette qui va sonner. On se dirait spontanément non. Mais alors, quand on parle de résurrection des morts, il faut le comprendre comme la trompette. Qu'est-ce qui me permet de faire une distinction, de savoir comment articuler ma pensée? C'est pour ça que c'est si important. Et il faut réfléchir à partir de là. Ceci, c'est vraiment la structure de la foi chrétienne. C'est aussi la structure de la foi, c'est ce qui nous permet de penser. C'est la théologie de l'histoire de notre foi. Et c'est quelque chose qui est très puissant. On connaît peut-être trop peu, mais ça vaut la peine. Nous avons une compréhension de l'histoire. C'est dommage de ne pas en profiter. Et ça veut dire, tout ce que je vous ai raconté là, qu'une réalité peut-être est signe d'elle-même, ou bien un mot est signe d'une réalité et signe d'une autre réalité qui vient aussi, puis d'une troisième et d'une quatrième. Et ça peut nous dérouter, parce que souvent, nous avons envie de dire, ben voilà, telle réalité, ça signifie ça et pas autre chose. Eh bien non. La foi chrétienne, le langage est plus riche. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous commençons avec l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est, dans la tradition juive, divisé en trois. Il y a la Torah, il y a les prophètes et les écrits. Alors, Torah, ça c'est le mot hébreu, parlons-nous du Pentateuque. Les écrits, on dit les Nevi'im, enfin les prophètes, pardon, on parle des Nevi'im, les voyants. Et puis, les écrits Ketuvim. D'où la tradition juive parle du Tanakh, pour dire tout l'Ancien Testament. Avec une petite nuance pour nous, c'est qu'à l'intérieur des écrits des prophètes, et des Ketuvim, des textes prophétiques, et il y a certains passages où le temps se resserre, et on parle d'écrits apocalyptiques. Alors, généralement, plutôt dans les écrits que dans les autres. Où, tout d'un coup, on sent que le temps se ramasse. Et que c'est le moment où Dieu va intervenir. Vous voyez? Alors, je vais développer davantage cela au fur et à mesure des écrits et des écrits apocalyptiques. J'en parlerai la prochaine fois. Aujourd'hui, je vais me limiter à la Torah et aux prophètes. Alors, pour commencer, pour parler de la fin, est-ce que vous m'entendez comme ça? Je vous approche le micro, ça va? Eh bien, il faut repartir à l'origine. Vous voyez le mouvement que j'ai essayé de retracer. Si je veux comprendre ce qu'il y a à la fin, comme le futur nous est inconnu, il s'agit de voir comment Dieu a guidé l'histoire. Et donc comment le peuple d'Israël, le peuple de la Révélation, a reçu une parole. Et comment dire cette parole si je ne pars pas depuis le début? Du coup, il faut partir du récit de la création. Vous me direz un peu bizarre. Ben oui, effectivement un peu bizarre. Alors prenons-le, vous allez voir qu'il y a des éléments essentiels qui sont donnés dans ces récits qui vont nous permettre de ne pas faire d'erreur à la fin, de ne pas faire d'erreur d'interprétation. Alors je prends le premier livre de la Genèse, donc le chapitre 1, le premier récit de la création. Vous savez qu'il y en a deux, je vais prendre l'un et l'autre. Donc dans ce premier récit, je vous invite pour, en tout cas pour les quatre cours qui viennent à prendre une Bible avec vous, ce sera peut-être plus simple. J'aurais dû vous le dire la dernière fois, pardon. Donc, Dieu crée l'univers par sa parole. Et alors, il y a toujours ce refrain qui vient, il dit et il fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Plusieurs, beaucoup de choses en fait. Mais déjà qu'ici, la parole est avant les choses, et que Dieu ne fait qu'après avoir dit. Il annonce et fait. Alors, il y a 7 jours, comme vous le savez. Dans les 3 premiers, on voit Dieu qui sépare, il crée. Qu'est-ce qu'il fait en séparant? Il met une limite. Ça, c'est très important. Il donne une limite. Cette limite n'est pas négative, elle permet une harmonie. Chaque chose a sa place et elles peuvent interagir ensemble. Donc, il y a les luminaires, les animaux aériens, marins, terrestres et puis l'homme. Donc, Dieu donne la vie. Dieu se positionne dès le départ comme celui qui donne la vie. Et il le fait avec prodigalité, puisqu'il y a une multiplication. Donc Dieu est généreux, il donne la vie et il souhaite que cette vie puisse s'épanouir. Le 7e jour, Dieu se repose. Cela signifie que la création possède une certaine autonomie. Et au sommet de la création, vous vous souvenez, il y a l'homme créé mâle et femelle, à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme arrive à la fin, ça signifie que l'homme est le sommet de la création. Non, certains disent que, mais ce n'est pas directement le texte, mais que toute la création se concentre en lui. Donc Dieu bénit et invite l'être humain à donner la vie à son tour, en croissant, en se multipliant, à habiter la terre et à la soumettre, à dominer tous les animaux. On voit bien qu'il est au sommet. Donc l'organisation de l'univers est due à Dieu. L'existence de tous ces êtres est le fruit de la parole de Dieu, que soit, dit-il chaque fois. Et chaque fois, cette fois, il va dire c'est bon, et quand il parle de l'homme, c'est très bon. Donc cette organisation est en soi bonne et Dieu s'en réjouit. Quand il dit c'est bon, c'est pas juste extérieur, c'est aussi quelque chose qu'il de sa manière qu'il vit lui-même. Donc cette création, je l'ai déjà dit, se réalise par la séparation et par la limite. C'est ce qui la rend possible. Donc si la création en séparation limite, si il y a un repos de Dieu, une certaine autonomie, et que l'homme est donné à lui-même pour se multiplier, ça veut dire que la création est inachevée. C'est très important, ça. Donc, l'homme lui-même a à recevoir le don de Dieu et abonder dans le sens de ce don qu'il a reçu pour devenir lui-même. C'est en ce sens qu'il est appelé à devenir à la ressemblance de Dieu. Donc il y a une certaine sagesse à faire cela. En fait, la création, si vous voulez, est comme la construction d'un temple saint où Dieu se repose. En se reposant lui-même, Dieu met une limite à sa propre puissance. Et donc l'homme est invité à imiter Dieu en parlant lui aussi, il donne des noms aux animaux, et en mettant lui-même une limite à sa force, en ne mangeant que des végétaux, par exemple. Il y a un caractère inaccompli de l'homme, et donc l'homme et toute la création est tendue vers cette fin. Comment est-ce que l'homme va recevoir cette création et l'accomplir lui-même? Et c'est lié donc à l'agir de l'homme dans la fidélité à la parole de Dieu. Voilà quelques éléments pour le premier récit de la création. Évidemment, je ne vous fais pas une exégèse détaillée de chaque passage, sinon j'ai besoin d'une heure pour chaque texte. Le deuxième récit de la création, il opère un zoom sur l'être humain. Donc il ne faut pas les voir de manière chronologique, ils disent deux choses de manière différente. Et dans ce récit, eh bien, la terre n'a pas encore de végétation. Il y a deux raisons, c'est qu'il y a l'absence de pluie et il y a l'absence de l'homme aussi. Implicitement, il est dit en fait que la création ne peut pas se réaliser pleinement sans l'être humain. Un peu plus loin, on voit Dieu qui modèle de la terre et qui insuffle à l'homme une haleine de vie. Ce mot « haleine de vie » n'est donné que pour l'homme, pas pour les animaux. Donc, ça veut dire que l'être humain est un composé, si on peut dire, il faudrait dire plutôt un tout, parce qu'on ne peut pas les séparer, de l'humus et de l'haleine de vie. Ça fait une unité. Il n'y avait rien, Dieu prend de la matière qu'il a créée, et puis à cette matière donne l'haleine de vie. Notons que ce texte ne parle pas, ne donne pas de point d'appui pour parler d'une préexistence de l'âme. Il n'y a rien qui permettrait de le dire. C'est plutôt inverse. Il y a une matière et don de vie. Et cette vie que l'homme a est un don de Dieu. Cette haleine de vie donc le distingue des animaux et des végétaux. Et le souffle, l'haleine de vie dit le souffle aussi, le rapproche de Dieu puisque l'homme est alors doué de parole. Le fait que la matière reçoive la vie n'est pas rien. Ça veut dire qu'il y a déjà là une certaine spiritualisation de la matière. En l'être humain, bien sûr. Une fois que Dieu a créé l'homme, il crée un jardin pour l'homme. Donc il y a toutes sortes d'arbres, dont l'arbre de vie au milieu du jardin, et comme vous le savez, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Le premier commandement de Dieu est positif, mange de tout. Et donc, ce que Dieu invite à recevoir, c'est tout ce qu'il a créé et de s'en réjouir, d'en jouir au sens noble du terme. Donc, en donnant à l'homme ce qui lui est nécessaire, Dieu vise à ce que l'homme se donne la vie à lui-même. Manger, c'est ça, entre autres. C'est me donner ce que Dieu me donne. C'est le don à soi-même dans le don de Dieu. Je cite ici ce que François Gonon explique. Vous l'avez sur vos feuilles. Le don peut être reconnu en vérité pour ce qu'il est, un signe. Le don qui commence le récit renvoie en effet à plus originel que lui, à sa source même, c'est-à-dire au donateur, à Dieu. Et le don ouvre par là également à plus ultime, à plus accompli que lui, que l'homme s'entend. Cette promesse est qu'un jour, au temps de la fin, le donataire et le donateur se rejoindront. Est-ce qu'on en fait un don que pour célébrer la communion ? Pour parvenir à cette communion. Cette promesse dit que donc rejoindre le donateur du don, rejoindre donc l'origine, la source de la vie dans sa plénitude. Telle est la fin vers laquelle tend le désir le plus profond de l'homme. Et si l'interdit ferme provisoirement l'accès à l'origine, à la vie divine qui est la fin de l'homme, c'est pour lui permettre de la désirer en la reconnaissant comme don gracieux, plutôt justement que de la convoiter en l'exigeant et en se l'appropriant comme un dû. Donc Dieu ici interdit à l'homme de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce qu'il dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Pourquoi ce commandement négatif? Mais en fait, négativement, ce qui est dit, c'est que Dieu veut la vie, il veut que l'homme vive, il ne veut pas qu'il meure. Donc, ce qui le conduit à la mort, il l'interdit. Il met une parole entre cela et l'homme pour qu'il s'en préserve. Et donc, que l'homme, c'est le commandement de Dieu, qu'il préserve la vie que Dieu lui a donnée. En fait, vous savez, dans la mentalité juive, connaître, c'est pas seulement théorique, c'est concret. Donc connaître le mal, c'est avoir mal, c'est goûter la mort, au final. Dieu ne le veut pas pour nous. Dieu ne veut que la connaissance du bien qui donne la vie. Et donc, je cite ici Albert Chapelle, Jean-Marie Hainaut et Borgonovo. Créé bon, l'homme, vous l'avez sur vos feuilles, est constitué dans une orientation positive de sa liberté vers Dieu, qui, étant son origine, est aussi sa fin. Cette orientation posée par Dieu ne contraint pas l'homme. Celui-ci est appelé à ratifier le mouvement qui le constitue et à le faire sien. Cela nous est indiqué par l'Écriture lorsqu'elle nous montre la présence d'un commandement dans le récit même de la création. Le Créateur est présenté comme un Dieu qui parle à l'homme et qui l'appelle à répondre à sa parole par l'obéissance de la foi en Dieu. L'obéissance de la foi, pardon. La création par Dieu est, selon la Bible, inséparable d'une vocation, d'un appel de l'homme à la foi en Dieu. Donc, elle est déjà comprise, ça c'est important, comme une alliance de liberté à liberté. C'est pourquoi l'homme est appelé achever en quelque sorte sa propre création en y consentant et en obéissant au commandement. Il est appelé à devenir ainsi par lui-même, librement, non sans l'aide de Dieu, ce qu'il est par création. S'opposant ainsi par lui-même selon ce qu'il est, créé par Dieu, il atteindra sa fin et son bonheur. En posant l'interdit, Dieu révèle la possibilité de la mort. Et il le lie donc vraiment au fait de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il y a un lien entre l'agir mauvais et la mort. Alors, ce qui est dit de cette manière-là, c'est que Dieu n'est pas l'auteur de la mort. C'est pas lui qui est à l'origine de cela. Dieu n'a pas voulu cela. C'est le fruit de l'acte de l'homme, ce qui est assez différent. Donc, par sa parole et par son interdiction, Dieu invite l'homme à la confiance, à croire qu'il est vraiment bon. Et la question, la grande question, c'est de voir comment est-ce que l'homme va accueillir cette parole. Est-ce qu'il va faire confiance à Dieu, ou bien se méfier de lui, le percevoir comme arbitraire, autoritaire, jaloux, égocentrique, tout ce que vous voulez? Et donc cette confiance en la parole que Dieu donne est déterminante pour l'homme. C'est absolument essentiel, puisque le contraire induit la mort. Alors, le texte ici ne précise pas de quelle mort il s'agit. Parce qu'on peut parler de différents types de morts. Il y a une certaine incertitude. Donc, ce que Dieu demande, c'est que l'homme consente à la limite, au manque, à ce qu'il est, en fait. Et c'est dans ce consentement à ces manques, à cette limite, que l'homme va acquérir sa vie, qu'il va, en fait, recevoir sa vie de Dieu, tout en se la donnant à lui-même. Dans le texte, on trouve aussi les animaux auxquels Dieu donne un nom. Ce don du nom manifeste encore la suprématie de l'homme sur toute la création. Et donc, on voit que la création est anthropologiquement centrée sur l'homme. Il y a encore la création de l'homme, homme et femme, enfin, la création de la femme dans le deuxième texte, qui montre que la limite s'inscrit de diverses manières. La nourriture, mais aussi la relation, et le corps, bien sûr. Alors, cette limite corporelle est positive ici. Elle est ce qui permet la relation, ce qui permet d'exister. Donc, c'est dans la reconnaissance de l'identité dans la différence que l'homme expérimente la vie et peut engendrer la vie. Voilà pour le deuxième récit, la création. Le grain de sable, enfin, fameux. Donc, la chute elle-même. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que la tentation, en fait, est toujours la même. C'est de commencer à ne plus croire que Dieu aime l'homme, qu'il veut notre bonheur et que tout nous a été donné. Ce serait de croire que Dieu a menti, qu'il ne veut pas partager la vie qui est la sienne. Et le serpent dans le récit vient souligner la négativité de l'interdiction de Dieu. D'ailleurs, sa phrase est assez intéressante. Il dit « Ah, vous ne pouvez manger d'aucun arbre du jardin. » Ben, c'est pas ça que le Seigneur a dit. Il va souligner le manque, il va le pointer de manière extrêmement forte en oubliant de dire qu'il y a d'abord le don de tout le reste. Donc il y a d'abord un don immense et puis il y a l'interdiction qui vient. Et lui il renverse pour nous montrer que ce qui est interdit. Et donc au sens propre, eh bien, ça devient l'arbre qui cache la forêt. Je ne peux pas manger de celui-là, donc je ne peux manger de rien du tout. Vous voyez, donc, petit problème. Wena explique de... Oui, c'est ce que je vous expliquais, ça. Donc, le serpent, qu'est-ce qu'il fait dans le récit? Il va pervertir l'image de Dieu pour instiller dans l'esprit de l'être humain l'idée que eh bien, Dieu est surpuissant, arbitraire et capricieux. Qu'il ne veut pas donner la vie. Il n'est plus bon, vous voyez. Et la femme, dans le récit, laisse mourir en elle la foi et la confiance en Dieu. Et c'est là que tout commence à aller de travers. Parce que vouloir goûter le mal, vouloir imaginer que c'est peut-être meilleur autrement, c'est vouloir devenir créateur à la place du créateur. Et donc, c'est refuser son état de créature et la finitude qui est la nôtre. C'est, autrement dit, ne plus voir la positivité de la limite, mais que sa négativité. Alors, pourquoi est-ce que je parle de cela? Parce que si la limite est positive, cela signifie que toute compréhension de la résurrection des corps qui tend à une disparition complète de la limite, disparition complète de la finitude, ne tient pas. Ça ne tient pas. Voir la limite comme uniquement négative est en porte-à-faux avec la bonté de la création. Alors, la première effet, si on veut, de le fait de manger du fruit, c'est la prise de conscience de la nullité et la honte. C'est-à-dire que l'homme ne se regarde plus à partir de Dieu, mais à partir de lui-même, autrement, et donc est incapable de regarder le corps de l'autre sans l'objectiver, sans le réduire, sans concupiscence. Donc la première mort dont il est question, c'est la mort de la confiance en Dieu, de la relation avec Dieu. Et donc aussi de la communion entre les êtres humains. Une autre conséquence de la chute, c'est la peur. Peur de Dieu. c'est l'accusation, la jouissance égoïste, la domination dans le rapport avec autrui, la souffrance, la pénibilité du travail et enfin le retour à la mort, à la poussière, donc la mort. En appliquant ce qu'il a dit, Dieu n'est qu'un juste juge. Il n'a pas trompé l'homme. C'est comme avec un enfant, si un parent lui dit « ne mets pas ta main dans le feu, tu vas te brûler » et que l'enfant le fait quand même, est-ce la faute du parent? Non. Il a tout fait pour que ça n'arrive pas. Mais il ne peut pas prendre la liberté de cet enfant. Donc, Dieu reconnaît ce qui s'est passé et il montre les conséquences du choix que l'homme a posé. Il dénonce la convoitise et il montre ses effets mortifères. Alors, ce qui est étonnant, c'est que dans notre récit, l'homme et la femme ne meurent pas directement après avoir mangé le fruit. Il y a un décalage. Il y a un décalage entre la mort de la confiance en Dieu et de la relation avec lui et le retour à la poussière. Ce n'est pas immédiat. C'est peut-être déjà un signe de la miséricorde du Seigneur d'ailleurs. Cela veut dire aussi que la mort de la relation à Dieu est plus grave que la mort physique. Puisque c'est plus essentiel, puisque l'homme est structuré profondément comme ça. Et on peut réfléchir de la même manière à partir de la pénibilité du travail ou de la souffrance, qui sont aussi la marque de la condition finie de l'homme. Donc, l'accès aux bénédictions que Dieu avait données au départ est rendu beaucoup plus compliqué, mais le don de la vie se poursuit. Peut-être c'est le deuxième signe de la miséricorde du Seigneur, parce que Ève devient mère et donne la vie à deux enfants. Et ensuite, Dieu chasse du jardin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire chasser du jardin? Est-ce que ça voudrait dire de nouveau que Dieu ne veut surtout pas que l'homme ait la vie et qu'il ne puisse pas s'en sortir? Non. Quel était le problème? C'est que l'homme avait refusé sa condition finie, qu'il n'avait pas accepté la finitude, la limite qui était la sienne. En chassant du jardin, Dieu aide l'homme, en fait, à accueillir cette condition finie, pour qu'il s'en sorte vraiment. Être chassé du jardin, c'est la nécessaire acceptation de la finitude dans la souffrance, dont la souffrance, l'enfantement et le travail, et la mort aussi d'ailleurs, sont le signe. Vous voyez ? Et donc la mort elle-même, ça c'est assez renversant qu'on le comprend, devient l'acte par lequel je peux, de manière complète, accepter la finitude qui est la mienne et le faire dans un abandon de confiance totale à Dieu. Donc la mort elle-même, de négative qu'elle est en soi, acquiert un aspect positif parce qu'elle va être le moyen par lequel je vais pouvoir me réconcilier avec ma finitude. Ça change beaucoup quant à la compréhension de la mort pour nous aujourd'hui et la manière de vivre la mort. La mort est indéclinable et donc c'est vraiment la limite à laquelle tout homme, qu'il le veuille ou non, est confronté de manière extrêmement forte. Et c'est un appel du coup à la confiance en Dieu. L'important dans la mort, c'est justement de mourir dans l'acte de confiance en Dieu. Alors, vous me direz, bon, ben, il n'y a toujours pas la mort physique ici. Alors, le chapitre 4 de la Genèse donne la réponse. Hein, puisque Cain tue Abel. Oui, la mort est vraiment là. La mort de la confiance en Dieu, la mort spirituelle était immédiate. La mort physique est différée. Et ensuite, l'histoire d'Abraham. Je vais assez vite sur ce passage, même s'il y a énormément à dire, mais qu'est-ce qu'on voit chez Abraham? Mais c'est une éducation à la confiance en Dieu. Abraham est connu pour celui qui a la foi. Donc Abraham est celui qui nous apprend, qui apprend lui-même et qui nous apprend à cette confiance complète en Dieu. On le voit dans plusieurs épisodes. Il y a un épisode dont je voudrais particulièrement parler, c'est Sodome et Gomorre. Là, on parle de la ville, des deux villes où les péchés ont atteint des sommets assez extraordinaires. Et Dieu prend le soin d'annoncer cela à Abraham, que c'est allé à un tel point que ça va être la destruction, parce que le péché mène à la mort. Et Abraham intercède. Vous vous souvenez de l'histoire, Abraham, il passe de 50, puis il descend progressivement, et il s'arrête à 10. Et Dieu dit chaque fois, pour autant, je ne veux pas faire, et puis il s'arrête à 10, parce qu'Abraham n'ose pas aller plus loin. Dieu a été plus loin qu'Abraham, puisqu'il en a sorti 4. Lot, sa femme, et ses deux filles. Donc Dieu a empêché que 4 justes meurent avec des injustes. Il a fait œuvre de justice et de miséricorde. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, c'est opéré par l'intercession d'Abraham. Il y en a un qui a intercédé pour les autres. Voilà pour la Genèse. Alors, dans le parcours biblique que nous sommes en train de commencer ensemble, je prends des passages, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Et dans ce parcours, c'est chaque fois des petites pièces de puzzle qu'on est en train de collectionner. Ici, il ne faut pas chercher, même s'il y a une logique propre, à voir le puzzle terminé. Non, on est en train de voir qu'est-ce que Dieu dit sur le sujet et... au départ, entre guillemets, du point de vue de la relation, on ne sait rien. Et donc là, on collectionne des petites choses. Mais vous voyez bien comment il y a déjà certaines logiques qui s'établissent. Maintenant, je vais un peu plus vite sur... je brasse de l'Exode au Deutéronome. Évidemment, il faut commencer par la sortie d'Égypte. Donc, vous vous souvenez, Israël... Si on peut déjà parler d'Israël, en tout cas les descendants d'Abraham se retrouvent en Égypte comme esclaves. Dieu voit cela et appelle Moïse. Il se révèle comme le vivant, celui qui est la vie d'une certaine manière, et il dit qu'il voit la misère de son peuple. Et il décide par l'intermédiaire de quelqu'un. Tiens, il passe par quelqu'un, c'est intéressant, pour délivrer le peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait certainement des morts parmi le peuple dû à l'esclavage. Mais ça veut dire que Dieu ne se satisfait pas que l'homme vive une vie au rabais. Une vie d'esclave, ça ne convient pas à Dieu. Il souhaite que... c'est pas simplement une vie physique que Dieu veut pour le peuple d'Israël. Il veut qu'il puisse vivre au sens plénier du terme. Et cette vie qu'il donne, c'est une vie de liberté, pas d'oppression. Le but de la sortie d'Égypte, c'est de pouvoir, dans le désert, aller offrir à Dieu un sacrifice. Autrement dit, pouvoir vivre de la relation à Dieu librement dans le désert. Et de vivre la communion de Dieu. Donc Dieu, cette libération est un fondement pour le peuple d'Israël, et le constitue en tant que peuple, donne la vie et crée de ce peuple un peuple libre. Une fois que le peuple est sorti du désert, ça ne s'arrête pas. Le peuple va évoluer pendant de nombreuses années à travers le désert, et on a là une éducation du peuple à la liberté. En fait, une éducation de sa liberté et une éducation à la confiance. Il y a plusieurs passages que vous connaissez tous. L'épisode de la mer Rouge, les Amara, l'eau, la manne, les cailles, l'eau qui est jaillie du rocher. Et plusieurs fois, donc, il y a un manque d'eau ou de nourriture. Donc le peuple se trouve chaque fois confronté à un manque assez fort, surtout quand on parle de la soif. La soif a un caractère beaucoup plus urgent que la faim. Et donc c'est la perspective de la mort qui est devant eux. Et de nouveau, c'est la question, c'est, est-ce qu'ils vont faire confiance en Dieu? Même face à la mort. Et chaque fois, Dieu, eh bien, intervient, malgré les murmures qu'il réprouve, en donnant l'eau, en donnant la manne, en donnant l'écaille. Donc chaque fois, il donne, il montre à nouveau le don qu'il fait. Dieu a déjà donné la vie, et il continue de la donner. Toujours dans une éducation à la confiance. Et pourquoi tous ces dons, surtout la manne? Parce qu'il s'agit non pas que l'homme apprenne à vivre de la manne, ça, mais qu'il apprenne à vivre de la parole de Dieu. Il y a un beau passage que je vous cite, Deutéronome 8, 3. Il t'a humilié, il t'a fait sentir la faim, il t'a donné à manger la manne, que ni toi ni tes pères n'aviez connu, pour te montrer que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. Donc c'est vraiment dans l'écoute au sens biblique que se situe la vie. Entendre et faire, agir en fonction d'eux. Et donc, la parole rappelle toujours que le don est premier et que l'invitation à vivre en fonction de ce don qu'on appelle la loi vient en deuxième. La loi, c'est le moyen de préserver le don. Ce n'est pas parce que la loi est appliquée qu'on reçoit le don. Non, le don est déjà donné et donc on reçoit une loi pour ne pas le gâcher, pour ne pas le perdre. Je passe la citation que vous avez. Donc il s'agit chaque fois de recevoir et non pas de prendre. Même s'il y a un prendre dans l'acte même de recevoir. C'est là toute l'articulation. Donc il s'agit de s'approprier ce qui est déjà donné. Cette articulation donc entre le don et la loi et l'observance de la loi, c'est une question de vie ou de mort, de bonheur ou de malheur. Vous pouvez aller lire Deutéronome 30, versets 15 à 20, où Dieu chaque fois dit « Mais voilà, je te donne la vie, le bonheur et le malheur. » Et à la fin, il dit « Surtout, choisis la vie. » Mais il faut que tu le veuilles. Deutéronome 4, 1. « Et maintenant, Israël, écoute les lois, les coutumes que je vous enseigne aujourd'hui pour que vous les mettiez en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez pour en prendre possession dans le pays que le Seigneur Dieu de vos pères vous donne. » Donc Dieu promet la conservation de la vie, mais en fait, il promet même plus. Il promet une élévation, il promet davantage. Il promet également d'élever Israël au-dessus des nations de la terre. Intéressant. Alors que Dieu tienne à la vie, il exprime encore autrement dans l'interdiction de manger le sang. Le sang, le symbole de la vie. Et donc, tu ne vas pas prendre la vie. Dans l'épisode du serpent d'airain, souvenez, lorsqu'ils sont dans le désert et qu'il y a des Israël murmure contre le Seigneur, et la conséquence est que le serpent arrive et morde le peuple, les hommes d'Israël, et donc ils commencent à mourir. Alors ils crient vers le Seigneur, et qu'est-ce qui se passe? Dieu dit à Moïse, ben, tu vas faire un serpent d'airain, tu le mets en hauteur, toute personne qui va le regarder sera sauvée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en reconnaissant le symbole du mal que j'ai fait, que je suis guéri. C'est en reconnaissant le péché, c'est par cette reconnaissance du péché que Dieu permet à celui qui a été mordu de rester en vie. Alors ce qui est intéressant aussi, vous savez, dans la mentalité hébraïque, c'est le peuple qui compte, la personne passe après. En tout cas à l'époque, c'est comme en Chine aujourd'hui, le groupe passe avant. Ce qui est intéressant ici, si toujours on pouvait voir que c'était une histoire de groupe, c'est que c'est chaque personne individuellement qui regarde, qui doit individuellement regarder le serpent d'airain, qui est sauvé. Donc le fait de recevoir le salut est une question aussi tout à fait personnelle. demande de se tourner vers le serpent et de recevoir la vie. Alors, quelques précisions. Dans la Torah, on a encore l'ordre de mettre le coupable à mort. Est-ce que c'est le contraire de tout ce que je viens de dire ? Non, parce que c'est négativement l'expression de mettre hors du peuple tout ce qui détruit la confiance en Dieu. Si quelqu'un ne vit pas la loi, il faut le tuer. Pourquoi ? Ce n'est pas une invitation vraiment à tuer les personnes ici, en tout cas pas pour nous. C'est de enlever du peuple tout germe de méfiance en Dieu, de désobéissance par rapport à sa parole, puisque c'est ça qui a induit le malheur. Deuxième point, la Torah et l'application des lois de la Torah est source de bénédiction ici-bas. Ce qui est cru, c'est que le bonheur est donné ici. À ce stade-ci, il n'est pas encore question de bonheur au-delà. C'est une rétribution immédiate, si vous voulez. En tout cas, elle doit se faire ici-bas. Pas de question de vie après la mort à ce stade-ci. Troisième point, le rapport entre le bonheur et le malheur implique évidemment l'idée du jugement. Le jugement, vous voyez, n'est pas extrinsèque à l'homme, il lui est intrinsèque d'une certaine manière. Dieu ne fait que juger de manière complètement conforme à ce que l'homme est. Ce n'est pas, c'est pas extrinsèque. Et alors, dans la Torah, Dieu n'est pas désigné comme juge, mais il agit comme tel. Moïse, par contre, est désigné comme juge, et les juges et ceux qui s'associent à Moïse, et puis les juges après, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire ? C'est justement juger d'après le juste jugement de Dieu, donc en fonction de la parole de Dieu. Avant de passer au prophète, un dernier point, voir la gloire de Dieu. En Exode 33, versets 18 à 33, Moïse formule le désir de voir la gloire de Dieu. C'est étonnant, Moïse a tout le temps été avec Dieu. Mais là, on voit le désir de son cœur, qui est de justement de voir de Dieu. C'est son désir le plus profond. Et là, il nous est révélé le fond du cœur de l'homme, voir Dieu. Mais Dieu avait dit, il n'est pas possible de voir la face de Dieu et de vivre. Donc, ça veut dire que cette vision de Dieu ne peut se réaliser que dans la mort. Alors, pourquoi ? C'est quand même surprenant. Est-ce que Dieu voudrait faire mal pour nous faire du bien ? Ce serait contradictoire quand même. Non, bien sûr que non. Cette affirmation ne peut se comprendre sans le poids de l'histoire, c'est-à-dire sans le récit de la chute, qui montre qu'il y a eu cette rupture de la confiance en Dieu, il y a eu ses conséquences, dont la mort. Et on ne peut plus faire comme si ça n'existait pas. C'est là, c'est simplement la réalité. Donc le passage actuellement, ce n'est pas ce que Dieu aurait voulu, mais actuel, c'est de passer par la mort. Alors je passe au prophète. Donc le Pentateuque, la Torah, c'était l'apprentissage de l'écoute de la parole de Dieu pour recevoir de Dieu la vie, pour vivre avec lui. Ça, c'est le but profond. Et le don de la terre promise, c'est le fruit de cela. Mais on est quand même devant une difficulté. Parce que très vite, le peuple oublie le Seigneur. Et c'est exactement le drame dont les prophètes sont témoins. Israël ne pratique pas la loi du Seigneur. Et alors on peut corser la chose, parce que c'est toujours une histoire de génération. Une génération a compris, la deuxième comprend un peu moins, ou plus du tout, et ensuite oublie le Seigneur. Donc c'est chaque fois dans l'écoute de la parole de Dieu, à travers les pères. Dieu me dit sa parole à travers mes ancêtres, mes parents, mes grands-parents, et c'est ainsi qu'il me dit ce qu'il y a à vivre. Et évidemment, la génération qui suit se dit, ben oui, écoute, ça c'était l'affaire de mes parents, moi ça ne me concerne pas. Donc chaque génération a refait l'expérience pour soi que c'est vraiment une parole de vie. Et donc les prophètes constatent que le peuple est infidèle. Et ils en prennent la mesure de manière amère, et cela mène en fait des juges à l'exil. Dieu ne va pas arrêter d'envoyer des prophètes, d'abord des juges, puis des prophètes, pour rappeler au peuple d'Israël qu'il s'agit d'écouter profondément et de vivre cette parole, qu'il est le vivant au milieu du peuple. Les prophètes, ce faisant, affirment l'actualité et la validité de l'alliance et de la loi, et l'importance donc d'être en communion aujourd'hui, maintenant, avec Dieu, et ils redisent le désir de Dieu que l'homme vive. Alors il y a cette parole d'Ézéchiel qui est magnifique, chapitre 33, verset 11, « Dieu ne prend pas plaisir à la mort du méchant. Il ne se réjouit pas du mal que l'on subit, ni de quoi que ce soit. » Et alors il poursuit ailleurs, au même verset, pardon, « Mais à la conversion du méchant qui change de conduite pour avoir la vie. » Convertissez-vous, dit-il, revenez de votre voie mauvaise. Pourquoi mourir, maison d'Israël? Donc, le seul désir de Dieu, malgré l'infidélité du peuple, c'est qu'il se convertisse et qu'il ait la vie. Lui qui est, dit Jérémie, la source d'eau vive. Et donc, par les prophètes, Dieu entre en jugement avec son peuple. Il rappelle le péché qui conduit à la mort. Et c'est là qu'il montre qu'il aime vraiment. S'il n'aimait pas, il laisserait faire. Ça m'est égal. Mais ce n'est pas du tout égal. Et donc, il dénonce la chose. En fait, dénoncer le péché, peut-être qu'on a du mal à le comprendre en tant que Belge, c'est déjà un acte de miséricorde. Et donc, ils affirment que Dieu juge et qu'il viendra pour juger. Et c'est Dieu lui-même qui parle, évidemment, par les prophètes. Je vous cite Jérémie 1, 16. « Je prononcerai contre eux mes jugements à cause de toute leur méchanceté, car ils m'ont abandonné, ils ont encensé d'autres dieux, ils se sont prosternés devant l'œuvre de leurs mains. » Ce qui est intéressant, c'est que quand on avance avec les prophètes, on voit que le jugement concerne bien sûr Israël, il concerne le royaume du Nord, il concerne Juda, mais il s'étend à toutes les nations, à toute la terre, à tous ses confins. C'est un jugement qui devient universel, en fait. Et là, il y a comme une extension qui, par la bouche des prophètes, advient. Alors, la colère de Dieu, ben c'est ça. C'est Dieu qui dit son dépit devant l'homme qui n'a pas choisi la vie. C'est en ce sens qu'il faut comprendre la colère de Dieu. Alors, toute l'infidélité du peuple aboutit à l'exil. D'abord, l'exil du royaume d'Israël et puis de Juda. C'est vraiment la conséquence de cette infidélité et c'est le jugement de Dieu. Dieu reconnaît ce qui se passe. Il laisse vraiment l'homme agir selon sa liberté. Et donc, c'est la mort du peuple comme peuple. Donc, le drame de l'exil va agir comme un butoir contre lequel Israël se heurte. Il le met en face de la mort et il force à réfléchir à cette mort. Et d'une part, la mort est la conséquence normale de la vie, c'est devenu la conséquence normale de la vie, et c'est aussi le résultat du péché. Il y a les deux. À l'intérieur de cette dynamique qui mène jusqu'à l'exil, il y a les rois d'Israël. Le seul roi d'Israël, c'est Dieu. Mais le peuple veut un roi humain comme les autres. Et Dieu accède à leur demande, à reculons, mais il y accède. et les rois vont devoir juger le peuple. Eux aussi deviennent des juges. Salomon, au début de son règne, est la figure par excellence du juste juge. Mais le drame va s'intensifier parce que dans le chef même de ceux qui doivent juger le peuple, l'infidélité commence à s'installer. Donc la justice touche le juge, elle va affecter les prêtres et les prophètes aussi. Tous ceux qui sont chargés de conduire à Dieu. Sauf les quelques-uns qu'on connaît, hein, dont on a les livres. Les véritables prophètes vont justement dénoncer cela de manière très forte. Et donc le malheur annoncé par les vrais prophètes signe donc le jugement de Dieu dans la fidélité à la parole du Deutéronome, qui est reprise presque mot à mot par Jérémie. Et à ce peuple tu diras, ainsi parle le Seigneur, voici que je place devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. C'est l'exil. À l'intérieur de tout cela, Dieu manifeste aussi sa fidélité. Le peuple est infidèle, mais lui, Dieu, se montre fidèle. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il annonce, par le prophète Jérémie et Ézéchiel, une nouvelle alliance. Pas seulement par eux, hein, par tous les prophètes. Il annonce un exode véritable, intérieur, dont la naissance de l'Emmanuel est le signe. Ils vont recevoir un cœur nouveau. Dieu va changer leur cœur de pierre et donner un cœur de chair. Cela va se faire par l'esprit qu'il donnera. Dieu donnera son esprit. Et les conséquences de ce don que Dieu fait, à l'intérieur même de l'infidélité, ce qui est assez sidérant, sont décrites les conséquences en termes de vie et même de résurrection. Je vous lis le prophète Isaïe, chapitre 26, verset 19. « Tes morts revivront, tes cadavres ressusciteront. » Quand même très impressionnant. Mais comment entendre cette parole d'Ézéchiel ? D'Isaïe, pardon. Il y a aussi le récit des ossements desséchés en Ézéchiel 37. Là, Dieu mène le prophète devant une vallée remplie d'ossements. Il y a une recarnation qui se fait des ossements et puis le don de la vie et tout le monde redevient vivant. C'est intéressant, on voit trois choses là-dedans. Ça se passe par un prophète. Le prophète doit parler et par la mention de l'esprit. Ce sont des choses qui sont intéressantes à venir pour ce qu'on verra plus tard. Alors, autant d'Isaïe et d'Ézéchiel, quand on parle de ça, on ne pense pas à la résurrection telle que nous la comprenons. On pense seulement au fait que le peuple va retrouver son pays, que le peuple va être restauré, il va revenir d'exil. C'est une manière imagée de le dire. Et donc la question va être de savoir quel va être l'événement qui va permettre de le comprendre autrement. Et donc, vous voyez que petit à petit, confronté à cette mort, Israël réfléchit et pense ce retour en termes de nouvelle création. Encore en même temps, eh bien, on a des oracles qui sont intéressants. Isaïe annonce qu'un rejeton, la racine de Jessé viendra et sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. Il affirme aussi que le fils de Jessé jugera avec justice. Il y a encore quatre autres séries, récits assez intéressants. Élie et Élisée rendent la vie à deux ans, chacun à un enfant. Et puis, vous avez Élie qui est enlevé au ciel. Tiens, il ne meurt pas. Il semble ne pas mourir. On dit qu'il est enlevé. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un peu... Et déjà, d'ailleurs, dans la Genèse, on parlait d'Enoch, qui était enlevé aussi. Il était une figure quand même de grande fidélité à Dieu. Dernier point dans les prophètes que je vais aborder, c'est qu'il y a une progression dans la compréhension de la justice de Dieu. en exil, Israël se dit, bon, ils restent pendant plusieurs dizaines d'années en exil, et donc les enfants se disent, voilà, nos pères ont péché, et c'est nous qui ont payé les pots cassés. Avec l'expression, les pères ont mangé du raisin vert, les dents des fils ont été agacées. Et donc on donnait cela comme proverbe. Et Ézéchiel au chapitre 18 dit non, non, non. Enfin, Dieu par Ézéchiel dit non, c'est pas comme ça. Vous dites cela, mais en fait ce ne sera pas cela. Si il y en a un qui est méchant et qui se convertit, il aura la vie. Si un juste arrête de suivre le Seigneur, se détourne de lui, il mourra. Et donc, ce n'est plus comme on pouvait le comprendre avec l'exil où tout le peuple paye tous ensemble. Ici, il y a une précision qui se fait où le fruit des actes revient à chacun. Et donc, ça, c'est un tournant dans la compréhension, même s'il y avait quelques prémices qui étaient déjà données avant. Je vous lis Ézéchiel 18, ça vaut la peine de le relire. « Si le pécheur se détourne du péché qu'il a commis, pour pratiquer le droit et la justice, il assure sa vie. Il a choisi de se détourner de tous les crimes qu'il avait commis, il vivra, il ne mourra pas. En même temps, si le juste se détourne de sa justice pour commettre le mal et meurt, c'est à cause du mal qu'il a commis qu'il meurt. » En fonction de ce qu'on a vu dans la logique de la Torah, évidemment, il s'agit d'être dans la relation de confiance et de recevoir chaque fois le don. Si je me coupe du don, je ne l'ai plus. Si je m'y ouvre pour le recevoir alors que je le refusais jusqu'ici, je le reçois. Et donc, de nouveau, on revient à cela, c'est ce qui est souligné encore et encore, l'importance de vivre de la parole de Dieu pour être avec Dieu et préserver sa vie est l'essentiel. Et Jérémie va un peu plus loin. Il va dire que la justice d'un seul procure le salut pour beaucoup. Parcourez les rues de Jérusalem, affirme Jérémie. Regardez donc, renseignez-vous, cherchez sur ces places si vous découvrez un homme, un qui pratique le droit, qui recherche la vérité. Alors, je pardonnerai à cette ville, dit le Seigneur. Et Isaïe va dans le même sens avec les chants du serviteur et surtout le quatrième. Je vous le lis, mais vous le connaissez, Isaïe 53, 10 à 12. Le Seigneur a voulu l'écraser par la souffrance. S'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, s'il a l'idée de prendre pour les autres, il verra une postérité. Il prolongera ses jours et par lui la volonté du Seigneur s'accomplira. À la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé. Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes en s'accablant lui-même de leurs fautes. C'est pourquoi il aura sa part parmi les multitudes, et avec les puissants, il partagera le butin. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il était compté parmi les criminels, alors qu'il portait le péché des multitudes, et qu'il intercédait pour les criminels. Donc, chez les prophètes, comme dans la Torah, l'idée selon laquelle la rétribution se réalise en fonction de l'agir de chacun, c'est-à-dire en fonction du lien vivant avec Dieu, est affirmée. Dieu jugera ainsi entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Plus encore, Dieu affirme que son jugement se réalisera. Toutes les nations le verront, et ce jugement sera l'avènement d'une véritable paix. Je vous remercie.